Hey, je lisais un article dans le New York Times. Il y a un jeune homme de 10 ans qui a été kidnappé il y a une vingtaine d'années. Imaginez, le kidnappeur en voulait à la famille. Et il avait beaucoup de colère, de ressentiment et tout ça, de colère envers la famille, envers les parents et tout ça. Il s'en est pris à leur enfant, un jeune garçon de 10 ans du nom de Chris Carrier. Et puis, il l'a kidnappé, il l'a emmené dans le bois et il a donné des coups il a pris un pic à glace, il a donné des coups sur le corps de l'enfant, fait des marques, des coupures, a brûlé certaines parties de son corps avec des cigarettes. Et puis, pour finalement lui tirer une balle dans la tête, la balle a traversé la tempe gauche, a traversé jusque l'autre côté, est sortie de l'autre bord, la tempe droite. Et puis, il l'a carrément abandonné là, dans le bois, et puis il est parti. Étonnamment, le jeune homme a survécu. Imaginez, avec des séquelles, évidemment, parce que la balle a traversé, puis en traversant, elle a endommagé le nerf optique. Alors, il a perdu un œil. Il est resté inconscient pendant 6 jours dans le bois, et c'est un fermier qui l'a trouvé après 6 jours. Et il l'a pris, il l'a sauvé, tout ça, il a pris soin. Une vingtaine d'années plus tard, le kidnappeur décide de confesser et reconnaître ce qu'il avait fait, que c'était lui qui avait kidnappé le jeune garçon. Il a maintenant 77 ans. Quand ça arrive, lorsqu'il confesse, il reconnaît ce qu'il a fait, 77 ans, et on n'avait jamais trouvé le kidnappeur. Là. Ça faisait une vingtaine d'années, puis il était maintenant dans une résidence de personnes âgées et laissé seul. Il n'avait pas aucune visite et tout ça. Et le jeune garçon a vieilli et est devenu un pasteur jeunesse dans une église. Et puis, évidemment, il a tout entendu ça. Alors, il a décidé d'aller visiter cet homme-là qui lui avait fait autant de mal et par lequel il avait perdu même son œil. Il avait encore des marques sur le corps. Imagine, tu as vécu depuis que tu es jeune avec un œil de perdu. Il a fallu que ça ajuste avec tout ça. Il y avait des marques partout là, sur le corps avec le pic à glace que ce kidnappeur avait fait sur son corps. Et maintenant, rendu pasteur jeunesse, il a décidé de visiter cet homme-là, du nom de David McAllister. Il est allé visiter dans la résidence personnes âgées. Et puis, il a commencé à lui parler. Il lui a pardonné, il a aimé, et il a commencé à lire la Bible avec lui, il a commencé à prier avec cet homme-là, et lui qui avait fait autant de mal envers lui. Et il raconte son témoignage en disant ceci. Il dit, plusieurs personnes ne comprennent pas comment je peux pardonner McAllister de m'avoir fait autant de mal. Mais de mon point de vue, je ne pouvais pas ne pas le pardonner. Si j'avais choisi de l'haïr pendant toutes ces années, ou si j'avais passé ma vie à chercher à me venger, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. L'homme que ma femme et mes enfants aiment, je ne serais pas l'homme que Dieu m'a aidé à devenir. Et c'est quand même phénoménal. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Hein, on a même la misère à pardonner parfois des gens qui nous font un peu de mal. Mais imaginez ce jeune homme qui passe toute sa vie avec un œil en moins, tous les ajustements et tout ça, l'apprentissage qu'il a dû faire toute sa vie. Et voilà cet homme-là qui réussit à pardonner puis même aimer. Et vous savez quoi? Il est devenu un de ses amis. C'est assez étonnant. Comment être capable de pardonner les pires offenses qui nous sont faites? Parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes humains, nous avons la difficulté à pardonner lorsque quelqu'un nous fait du mal. Il y a juste une personne qui va nous critiquer puis ça nous blesse, c'est vrai? Ça va nous blesser à quelque part, ça nous fait quelque chose. Alors imaginez ces grandes blessures, ces grandes offenses qui nous sont faites. Comment réussir comme ce jeune homme, Chris Carrier, à pardonner ces grandes offenses, ces grands maux qui nous sont faits, qui nous causent même du mal pendant des années? Ça laisse des séquelles. Parce que nous sommes humains, et c'est une bonne question, c'est une question très sérieuse, une question humaine. D'ailleurs, les disciples comprenaient ça. Comment ça pouvait être difficile, le pardon. À un point tel que les disciples vont voir Jésus et poser exactement cette question-là. Comment tu fais ça? Moi, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans Luc chapitre 17. On va lire à partir du verset 3, d'accord? Alors, on va lire les versets 3 jusqu'au verset 10, de 3 à 10. Luc 17, versets 3 à 10. Si vous êtes nouveau dans les Écritures, c'est pas compliqué. Vous tournez dans le Nouveau Testament, vous avez Matthieu, Marc et Luc, le troisième livre du Nouveau Testament. D'accord, Alex? Tu vas trouver, c'est le troisième livre? OK. Bon, on se taquine comme ça de temps en temps. Alors, Luc, chapitre 17, verset 3. Vous êtes là? Et c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et te dise, « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi un souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Mais j'aimerais revenir avec le verset 3, d'accord? Verset 3 qui dit ceci, faites bien attention. Voici ce que Jésus dit, faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dit, j'ai eu tort, tu pardonneras. Hey, 7 fois, là. Tu rentres au bureau demain matin, là. Tu as entendu parler qu'un tel t'a critiqué vendredi après-midi. Il t'a fait un tort, ça fait mal. Il a dit que tu n'étais pas un bon employé. Une heure après, elle recommence à parler à quelqu'un d'autre, tu n'entends parler. 2 fois. Qu'est-ce que tu fais? 3e fois, 4e fois, 6e, hey, 7 fois. Et Jésus dit, 7 fois, tu pardonnes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, dans la pensée juive, le chiffre 7, c'est le chiffre complet. On se servait du chiffre 7 quand on voulait parler de illimité, d'ampleur. Donc, ce n'est pas juste une quantité. 7 représente illimité, mais en plus, c'est la grosseur, l'ampleur. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, tu pardonnes non seulement un bon nombre de fois, alors en d'autres mots, tout le temps, mais en plus, tu pardonnes les pires offenses, jusqu'aux pires offenses que tu peux imaginer. Et là, tu pardonnes. C'est de ça qu'il parle. Il parle des grandes offenses qui nous sont faites. C'est une façon de dire, imagine le pire qui pourrait arriver, eh bien, pardonne. Imagine, c'est tout un message, ça. C'est gros, ça, ce que le Seigneur est en train de dire ici. Alors, il ne s'agit pas juste de la quantité, mais de la gravité de l'offense. Il y a 2 aspects ici dans ce que Jésus est en train de dire. Il dit, 7 fois, la personne t'offense. Donc, il y a une quantité, mais aussi une ampleur. La grandeur de l'offense. Et qu'est-ce que le chrétien est censé faire? Qu'est-ce que Jésus nous demande ici? Il dit, pardonne 7 fois. En d'autres mots, sois généreux. Pardonne généreusement. Et on parle ici de la générosité relationnelle dans tes relations. Et vous savez ce que c'est, ça, la générosité relationnelle? Si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est, hein? Mon ami, si vous avez des enfants, là, tu sais, les enfants vont faire quelque chose, puis là, tu pardonnes, ça recommence, tu pardonnes. Hey, écoute, l'autre jour, mon petit gars, parce que sa mère, j'étais là, on était en visite. Sa mère, il dit, là, tu ne feras pas ça, là. Hey, écoute, le petit gars, regarde sa mère, pas rire, puis il fait exactement ce qu'elle venait de demander de ne pas faire. Puis, tu sais, il regarde, puis, tu pardonnes. Tu sais ce que c'est la générosité relationnelle. On le fait constamment avec des enfants, on le fait dans notre mariage. Là, vous pardonnez généreusement dans votre mariage. Hein? Quand tu es dans l'amour, tu pardonnes beaucoup. Hein? Alors, on sait ce que c'est. Alors, Jésus est en train de nous dire, c'est comme ça que tu dois pardonner ceux qui t'ont offensé. Mais non seulement ça, pas juste une petite offense, les grandes offenses qui te sont faites aussi. Pardonne généreusement. Hey, ça, c'est gros, ça. Comment tu fais ça? Les disciples ne se sentent pas capables de le faire. Et c'est humain. Même les rabbins, à l'époque du Nouveau Testament, disaient, tu pardonnes jusqu'à trois fois, mais après ça, tu arrêtes. Jésus, non seulement qu'il dit, c'est illimité, mais même les pires offenses, tu pardonnes. Alors, les apôtres ne se sentent pas capables de faire ça. Fait qu'ils s'en vont voir Jésus, puis ils demandent à Jésus, augmente notre foi. Augmente notre foi. On a besoin de plus de foi. N'est-il pas intéressant que les disciples associent l'obéissance, c'est-à-dire faire ce que Jésus leur demande, à la foi? C'est comme pour dans la mentalité des disciples, foi égale obéissance. Intéressant, ça, là. C'est important de comprendre ça, là. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi n'est pas juste intellectuelle. Dans le monde moderne dans lequel on vit, les gens se servent du mot foi. Ils vont se servir de ça. Même les incroyants, des gens qui ne croient même pas en Dieu, vont parler de foi, vont dire, écoute, aie confiance. Et la foi, dans la mentalité de notre culture aujourd'hui, en 2018, c'est quoi? C'est un peu comme la pensée positive. C'est d'être optimiste. Par exemple, tu reçois une mauvaise nouvelle, puis il y a des gens qui t'entourent, des gens que tu aimes, qui t'aiment bien, et tout ça, qui t'entourent, et ils te voient un peu découragé, déprimé, un petit peu stressé à cause de la mauvaise nouvelle que tu viens de recevoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, pense pas demain, pense pas à ça, pense pas à ça. Sois positif, aie confiance, crois, let's go, yeah! Je t'envoie des ondes positives. Tu entends ça? Hein? Aujourd'hui, dans la mentalité, aujourd'hui, en 2018, la foi... C'est comme de l'optimisme. En l'autre bout, ce qu'ils sont en train de dire, c'est « sois pas découragé, n'aie pas peur, aie confiance, ça va bien aller, ça va bien aller. Hein? » As-tu déjà entendu ça? « Ça va bien aller. » Alors, c'est comme, c'est de l'optimisme. Mais quand tu regardes la foi telle qu'elle est définie dans les Écritures saintes, dans la parole de Dieu, on découvre que c'était plutôt une question de confiance. Si bien que dans la Bible, la foi biblique peut parfois être positive, mais parfois pessimiste. As-tu déjà eu ça, toi, la foi pessimiste? Mais elle est toujours, toujours obéissante. La foi peut parfois être optimiste. Oui, yes, je crois, j'ai prié, j'ai confiance en mon Dieu, il m'aime. Mais parfois, elle peut être pessimiste. Mais elle est toujours obéissante. On a un exemple, par exemple, avec l'apôtre Pierre. Un moment donné, d'ailleurs, en passant, juste le mot « foi » dans le texte original, ça peut aussi se traduire par « fidèle ». Mais on a un exemple dans la vie de Pierre. À un moment donné, dans le livre des Actes, on voit l'apôtre Pierre qui se fait jeter littéralement en prison. Il s'en va dans une cellule, il est en prison, tout ça. Et la veille, il y avait un frère qui s'était fait tuer. Alors, pour Pierre, et les chrétiens qui le connaissaient, pour Pierre, le lendemain, là, il se faisait comme « Oups! » Il mourait, là. Il y avait un frère qui était mort juste la veille. Mais là, les chrétiens décident de se rassembler, puis ils vont se réunir ensemble pour prier. Donc, les chrétiens sont ensemble, commencent à prier, fait qu'on va prier. Maintenant, il ne faut pas oublier le contexte, là. Il y a quelqu'un qui vient de mourir, là, la veille. Alors, pour eux autres, Pierre va probablement mourir. Donc, pourquoi il prie? Eh bien, certains vont prier pour qu'il ait du courage, peut-être témoigner des gens autour de lui dans la prison, peut-être d'autres prient pour qu'il ait du courage à faire face à la musique le lendemain, quand il sera mis à mort, qu'il puisse glorifier Dieu par son témoignage. Et certainement, il devait y en avoir quelques-uns qui priaient pour qu'il soit délivré. Mais, on va voir la suite, il y avait des doutes. Beaucoup de doutes. On était pessimistes. Une fois pessimistes. À imaginer, les chrétiens sont réunis, ils sont en train de prier. Ils sont tous là ensemble, ils sont en train de prier. Là. Ça prie. « Hey, Seigneur, et tout ça, là, mets ta main sur Pierre, donne-lui du courage, tout ça. » Pendant qu'ils sont en train de prier, en même temps, Pierre est en prison, puis là, un ange vient dans la cellule et ouvre les portes, les chaînes de Pierre tombent à terre, et il sort de prison, là, puis il se retrouve en plein milieu du boulevard Maloney. Alors, imagine-toi, là, il est sur le boulevard Maloney, en plein milieu de la nuit, là, puis là, il est là, et lui, tout ce temps-là, il pense que c'est une vision. Et là, tout d'un coup, quand il est sur le boulevard, là, Il est là, puis il dit. Là, il réalise. Et c'est vrai, cette affaire-là. Hey, j'ai été libéré. C'est vrai. Et c'est ça que ça dit en passant le passage. Hein. Ça dit, regardez bien. Ça dit, revenu à lui-même. Pierre dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, il m'a délivré. Vois-tu, jusque-là, il ne croyait pas, lui. Il pensait que c'était une vision. D'un coup, il réalise. J'aime bien ce qui suit. Ça dit, après avoir réfléchi. C'est vraiment drôle. Il me semble, j'imagine Pierre, là, qui est juste là, libéré, puis il vient de se réaliser qu'est-ce qui s'est passé, puis là, il est libéré. Là, il regarde. Puis il pense. Après avoir réfléchi. Tu sais que, OK, je fais quoi, là? Et lui, il se rappelle que les chrétiens se réunissaient régulièrement chez Marie. Donc, il décide d'aller chez Marie. Il dit, il doit y avoir des chrétiens qui sont là, réunis, en train de prier, fait que donc je vais aller chez Marie. Donc, il se décide, il s'en va chez Marie. Puis là, il est sous le balcon. Il parle. « Hey, you! Je suis ici! » Là, les chrétiens sont tous en train de prier en dedans, là. « C'est après, Seigneur, mets ta main sur Pierre, et tout ça. » Puis là, Pierre est sur le balcon. Et là, tout d'un coup, il y a une fille qui s'en va, qui dirige à la porte, entend la voix, reconnaît que c'est Pierre. « Hé, mon ami, tout excité, se retourne de bord, ça envoie la gang. » Elle dit, « Hé, Pierre est dehors! » « Oh, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, mets ta main sur Pierre. » Non, 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 Pierre est dehors! Hé, hey, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été la réaction? Hé, hey, gloire à Dieu, amen, Dieu a répondu à notre prière. Alléluia! Hé, hey, high five! Yes, Lord, there is a God! Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? Non, regardez bien la réaction des chrétiens qui sont en train de prier. Ils sont en train de prier, là. « Oh, Seigneur, s'il te plaît, mets ta main sur Pierre. » La fille a dit, « Non, 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 Pierre, il est dehors! Dieu a répondu, tout! » Ça tourne d'abord, il regarde, il dit, « T'es niaiseuse. Il était niaiseuse. T'es folle. Seigneur, continue, mets ta main sur ça, puis ça continue de prier. Vous comprenez pas? Pierre, il est dehors! » Il y en a un autre qui sortait de base. Mais oui, non, c'est son ange. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, les rabbins enseignaient que quand tu mourais, ton ange apparaissait. Donc, en d'autres mots, ah, c'est ça, il est mort. Seigneur, il est mort. Dites-moi, aidez-moi là, ici. Là. Est-ce que c'est une foi positive? Pas trop, hein? Pessimiste? Du doute? Pas mal. Mais laissez-moi vous dire que leur prière est une prière de foi. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils étaient pessimistes, malgré qu'il y avait des doutes, ils priaient quand même. En d'autres mots, malgré leurs doutes, ils ont fait quand même ce que le Seigneur leur avait demandé, et c'était de prier. Amen. Vois-tu? La foi, c'est faire assez confiance à Dieu que tu fais ce qu'il te demande. Que tu sois positif, négatif, pessimiste, tu fais ce qu'il te demande. Avec tes doutes? Oui, avec tes doutes. Parce qu'il faut savoir que le doute n'est pas toujours contraire à la foi. Wow, 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 wow. Non, mais attends un peu, là. Là, j'en ai quelques-uns, là. Vous allez me dire, Normand, moi, je me rappelle un passage dans le livre de Jacques, un passage dans Jacques qui dit, si tu pries puis tu doutes, le Seigneur ne te répondra pas, là. Bien, on va aller voir ça. OK? On va aller voir ce passage-là. Qui dit quoi? Jacques 1. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux genres de doutes. Il y a le doute qui refuse d'obéir à la parole de Dieu et il y a le doute qui obéit quand même à la parole de Dieu. D'accord? Deux genres de doutes. Jacques 1, 5. Voici ce que ça dit. Si l'un de vous manque de sagesse, et il faut comprendre que la sagesse dans les Écritures, dans la Bible, ce n'est pas juste une question intellectuelle puis philosophique puis être pas mal intelligent et tout ça. Non, la sagesse dans la pensée juive, c'est le moyen par lequel je discerne et je fais la volonté de Dieu. Donc, je discerne quelle est la volonté de Dieu, mais en plus, je la fais. D'accord? Ça, c'est la sagesse dans la pensée juive. D'ailleurs, pour chez les Juifs, si tu sais quoi faire et tu ne le fais pas, tu n'es pas vraiment brillant. Chez la pensée juive, c'est discerner et faire, ça va ensemble, d'accord? Alors, Jacques est en train de parler à des chrétiens qui passent un mauvais quart d'heure. C'est des chrétiens qui sont dans la persécution, et c'est tough, c'est dur. Alors, comment tu réagis là-dedans? Comment tu vis ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que Jacques est en train de dire, regarde, tu es en train de passer à travers un moment tough. Il y a des gens qui te font du mal, ils ont tout arraché. Peut-être que tu es bien chez vous, tout ça. Comment tu vas agir? Alors, Jacques est en train de dire, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6, continuant en disant, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Voici comment on comprend ce verset-là normalement. Quand tu pries, tu as besoin de ne pas douter, mon ami. Parce que si tu doutes, tu ne recevras rien. Pas vrai qu'on comprend ça de même? Alors que nous, on voit ça, on dit, est-ce que je doute que Dieu va répondre, c'est comme ça qu'on comprend. Non. Ce n'est pas « je doute que Dieu va agir ». Ce que le passage dit, c'est « est-ce que tu doutes comment tu vas agir ?» C'est une grosse différence. Voici ce qu'il est en train de dire ici. D'accord? Ce n'est pas le doute si Dieu va répondre, c'est le doute si toi tu vas répondre. Robert, et il y a un commentaire qui explique vraiment ce passage-là et qui nous aide à comprendre qu'en fond, dans le fond, ce qui est questionné ici, c'est ta décision, ta conviction d'agir en fonction de ce que le Seigneur va te dire. En d'autres mots, ne sois pas chambranlant. Ne doute pas dans le sens que tu as un pied sur le bord du monde puis tu as un pied dans le Seigneur. C'est tellement tough. Tu as de la pression, que tu as le goût de balancer la serviette, tout lâcher, puis t'en aller. Le Seigneur est en train de dire, si tu es comme ça, si tu doutes ce que tu vas faire, prie même pas. Tu perds ton temps. Parce que le Seigneur sait que tu es aveugle de tout lâcher, puis t'en aller, de toute façon. Mais si tu veux, si tu es résolu, si ton cœur n'est pas, et c'est le terme ici de doute, divisé, si ton cœur n'est pas divisé, partagé, pas savoir qu'est-ce que tu vas faire, mais tu es vraiment résolu de plaire à Dieu et marcher avec Dieu, prie, puis laisse-moi te dire, le Seigneur va te donner la sagesse parce que ça s'inscrit dans sa volonté de te montrer comment tu dois mener ta vie chrétienne. Amen. Fais pas de schizophrénie spirituelle. Promène-toi pas d'un bord puis de l'autre. Ah, je ne suis pas sûr, moi tu suis, moi tu ne suivrai pas. Ah, c'est tough. Oh. Je n'ai pas ce que je lui ai demandé, je n'ai pas ma job, je voulais avoir un job, j'ai fait une demande, ça n'a pas marché. Tout. Le Seigneur est en train de dire, non, sois pas comme ça, sois résolu de marcher, quoi qu'il arrive, sois résolu de suivre le Seigneur, puis tu vas avoir appris. Le Seigneur va te donner la sagesse que tu as besoin dans ces moments-là. Et regardez ce que ça dit, le verset. Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Vois-tu, tu es un pied dans le monde, puis un pied dans le Seigneur, tu te promènes d'un bon pied de l'autre, non, je ne suis pas sûr. Alors, verset 8 dit, c'est un homme partagé. Vas-tu le faire deux? Pas sur Dieu. Il est sur cette personne-là. Là. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. C'est sa conduite ici qui est question. Là. Alors, en d'autres mots, c'est le genre de doute qui refuse de faire la volonté de Dieu. On parle ici des motifs de ton cœur, des désirs. Ce n'est pas le même doute qu'on a retrouvé dans la réunion de prière avec les chrétiens qui priaient pour Pierre. Puis c'est des prières chambranlantes, plein de doutes, pas sûr de savoir ce que le Seigneur était pour faire. Parce que l'autre, hier soir, il est mort. On ne parle pas de la même chose. Eux, les gens qui ont prié là, pour Pierre, plein de doutes, ont fait ce que le Seigneur demandait. Dans leur doute, ils sont allés au Seigneur, puis ils ont prié, puis ils ont demandé. Ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait. En d'autres mots, la foi selon la Bible, c'est faire suffisamment confiance à Dieu pour faire ce qu'il nous demande. Et les disciples le savent. Et là, ils entendent Jésus dire, pardonnez généreusement. Pardonne même les gens qui te font bien mal. Pas juste un petit peu, bien mal. Il faut savoir que quand quelqu'un t'offense, elle a une dette envers toi. Puis tu sais que parfois, il y a des gens qui te font payer les dettes des choses que tu as faites dans le passé, des erreurs que tu as faites dans le passé, puis ils te font payer ça bien longtemps. Moi, j'ai connu un mari, là, que quand il avait une chicane avec sa femme, il arrêtait de lui parler pendant 3 ans. Trois jours. Pendant 3 jours. Arrêtait de parler à sa femme. Il boudait. J'ai connu un autre monsieur qui a eu un litige avec sa sœur. C'est pogné, là, avec sa sœur. Chicane avec sa sœur. Il a arrêté de lui parler pendant 15 ans. Hey, 15 ans, tu m'as dit, fini, je ne lui parle plus à ma sœur. Fini. Elle m'a dit ça. Maintenant, je ne veux pas dénigrer ce qui s'est fait, parce que des fois, il y a du mal qui se fait, puis ça fait mal en bébite. Hein? Alors, je ne veux pas dénigrer ça, là. Mais le Seigneur est en train de nous demander, regarde, pardonne. Pardonne. Alors, les disciples comprennent, ils disent, écoute, augmente notre foi, parce que ça, c'est vraiment tough. Ce que tu demandes là, on a vraiment besoin de foi, plus de foi, vraiment pas assez de foi pour faire ça, là. Humainement parlant, là, hey, donne-nous du tonic, donne-nous du Red Bull spirituel pour qu'on ait plus de foi, pour qu'on soit capable de faire ça. Là. Alors, regardez bien la réponse que Jésus va faire. Il répond avec une parabole. Alors, Jésus nous demande de pardonner généreusement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, regardez bien la réponse de Jésus. Premièrement, il dit, faites attention à vos cœurs. Avez-vous vu le verset 3? Faites bien attention à vous-même. Quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un te fait mal, tout de suite, regarde ton cœur parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être se passer là, là. Veille sur ce qui est en train de se brasser, ça bouille en dedans, il y a de la colère en dedans, puis là, tu commences tranquillement, il y a de l'amertume en dedans. Alors, première chose à faire, première étape, le Seigneur le dit, veille, fais bien attention à ce qui se passe. Sois conscient sur ce qui se passe dans ton cœur. D'accord? Premièrement, le bon de ça. Parce qu'Hébreux 12, 15 nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, veillez à ce que aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. D'accord? Deuxièmement, voici comment tu vas réussir à pardonner ce que l'on juge être impardonnable. Alors, un, check ton cœur. Petit crochet, OK, ça va bien, écoute. Deuxièmement, place ta foi sur la bonne personne. On l'a dit tantôt, notre société, c'est quoi? C'est presque voir la foi comme ce qui est magique. Ce qui est magique, ce qui est puissant, c'est juste avoir la foi. C'est pas important en quoi tu la mets, c'est juste la foi. Tu as de la foi? Parfait, ça va bouger. Non, 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 non. Il faut que tu mettes ta foi sur la bonne personne, sur Jésus-Christ, c'est ça le point. Jésus-Christ est la puissance. Jésus-Christ est le roc. C'est lui. C'est en lui que tu vas placer ta foi. Verset 6, le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. » En d'autres mots, avec Jésus, ce n'est pas le manque de foi qui est ton problème. C'est vraiment intéressant parce que Robert Stein a fait une analyse sur la phrase dans l'original et conclut que la façon que c'est formulé dans l'original, ce que Jésus est en train de dire, c'est que non, le problème, ce n'est pas de la foi, vous n'avez assez de foi. Tu en as assez. Donne-nous plus de foi. Non, 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 tu en as assez. Pas besoin de plus. Ce n'est pas de la foi que tu as besoin. Là. Tu l'as assez. Pourquoi? Parce que tu as placé ta foi sur Jésus-Christ, sur la bonne personne, sur le roc. C'est vraiment intéressant. Il faut se rappeler que la foi n'est aussi puissante, n'est qu'aussi puissante que l'objet sur lequel elle s'appuie. Et Jésus, c'est du solide, c'est du roc. Certaines personnes pensent que juste avoir la foi, c'est assez. Mais non, la raison pour laquelle le grain de moutarde, qui est l'exemple que Jésus va donner, fonctionne, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que cette foi-là dont Jésus parle, elle est placée sur Jésus-Christ. Maintenant, le grain de moutarde, c'est une expression qui était bien connue là-dedans, même à l'époque, même les rabbins se servaient de ça comme une expression proverbiale qui voulait dire ce qui est le plus petit. En d'autres mots, si tu voulais comparer quelque chose à quelque chose de très petit, il dit, écoute, c'est tellement petit, c'est comme un grain de moutarde. On se servait de ça couramment, en voulant dire, c'est petit, 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 petit. Jésus dit, vous n'avez assez de foi. Et Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, en d'autres mots, ça prend juste un petit peu, une petite affaire, là. Puis tu vas déraciner le mûrier. Une expression qu'on a bien connue, qu'on a bien expliquée dans la dernière année, même expression chez Matthieu qui dit, par exemple, tu as assez de foi, tu vas pouvoir déplacer la montagne, ici c'est déplacer l'arbre. Et c'est une expression qu'on employait régulièrement dans nos conversations qui voulait simplement dire régler des problèmes. Régler des problèmes, des litiges. D'ailleurs, on appelait un rabbin qui avait réglé bien des problèmes, un déracineur de montagne. Ça veut tout simplement dire régler des problèmes. En d'autres mots, tu as un gros conflit. Tu as quelqu'un à pardonner dans le cas ici, dans le contexte immédiat ici. Tu as un gros conflit avec quelqu'un. C'est gros, tu ne te sens pas capable. Oh, regarde, avec Jésus-Christ, tu es capable. Tu as assez de puissance pour le faire. Fais juste obéir. Vas-y, suis. Fais-le. Tu vas voir. Tu as assez la puissance en Jésus-Christ pour être capable de le faire. C'est ça le point de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est du roc, c'est du soleil, solide. Alors, quel que soit le conflit, en Jésus-Christ, tu as assez de foi, assez de puissance pour pardonner. Tu as la capacité de le faire. Alors, vas-y, pardonne généreusement. Agis avec générosité dans tes relations. Alors, fais attention à ton cœur, premièrement, pour ne pas laisser d'amertume s'installer dans ton cœur. Colle-toi à Jésus. C'est sur lui que tu as besoin de placer ta foi. Et troisièmement, rappelle-toi que Jésus a payé ta dette colossale. Regardez ce que le verset 7 va dire. Raconte une histoire, verset 7. Il dit ceci. Si l'un de vous, raconte une histoire, si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite, te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après ça, tu iras manger et boire. » Et le verset 10, Jésus va conclure en disant, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été demandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Voici comment comprendre ce qui se passe ici. Il faut comprendre qu'à l'époque de l'Antiquité, premièrement, l'esclavage n'était vraiment pas pareil comme aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir avec le racisme et tout ça. Et des fois, il y a une façon de devenir esclave dans ce temps-là, c'est que tu devais de l'argent à un créancier. Maintenant, il y avait deux options. Il y avait, si tu devais l'argent à quelqu'un, le créancier pouvait décider de carrément te jeter en prison, puis là, tu pouvais rester là, tu restais là en prison. Parce que toi, tu n'avais pas d'argent, et peut-être qu'un membre de la famille pouvait peut-être t'aider, c'était possible, mais encore là, tu es encore en train d'emprunter, c'est un servicieux et tout ça. Alors là, tu es en prison. Alors, la première option, c'est que le créancier te balance en prison. Puis là, c'était vraiment la misère. Mais il y avait une autre option. Si ça donnait que le créancier était miséricordieux, c'était patient, c'était miséricordieux, il pouvait te donner le privilège, et c'est un privilège, de pouvoir rembourser la dette que tu avais envers lui en travaillant pour lui. Et ça, c'est gracieux, ça. C'est vraiment d'être généreux. C'est que tu as l'opportunité de dire, regarde, viens, tu travailles chez nous, tu vas travailler, puis tranquillement, tu vas pouvoir clairer ta dette. Je te donne ce privilège-là au lieu de te retrouver en prison. Alors, on peut comprendre le contexte. Ce gars-là, là, il arrive à 5 heures, il a fait sa journée. Le créancier n'a pas à lui dire, « Ben, tu as fait une bonne journée, petit gars, viens-t'en, viens au souper. » Non, non, il va continuer parce qu'il travaille puis il est en train de rembourser sa dette et tout ça. Donc, pour la personne qui a cette dette-là, il est super content de pouvoir le faire parce qu'il n'est pas en prison. Il peut voir sa femme, ses enfants, tout. Il est là, il est libre dans un sens. Et il continue sa vie parce qu'il n'y avait pas moyen de faire faillite dans ce temps-là. Tu allais en prison, tu payais ta dette, tout ça, mais... Alors, voici cette personne-là, ce créancier, qui est hyper gracieux, qui est généreux, puis lui permet de rembourser tranquillement sa dette tout en gardant sa liberté. Hey, c'est merveilleux, pas vrai? Super! Alors là, Jésus va faire quelque chose à la fin. Parce qu'au début, c'est vraiment intéressant parce que Jésus va tourner la table. Parce qu'au début, il dit, admettons que toi, tu es un maître. Puis il y a quelqu'un qui doit de l'argent, etc. Puis tout ça, tu sais. Là, à la fin, il va tourner la table, puis il va dire, « Vous de même. » C'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de dire, parce qu'il y a un message derrière ça. Et voici ce qu'il est en train de dire. Vous de même, quand vous faites, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus raconte cette histoire en réponse à la discussion sur le pardon. Et ce qu'il est en train de dire, ce qu'il dit, c'est que lorsque tu refuses de pardonner, c'est que tu as oublié qui tu es. Tu es un serviteur qui agit comme un maître. Tout d'un coup, tu es un serviteur qui agit comme le roi. Vois-tu où ce qui s'en va le Seigneur ici? Hey, on doit tout à Dieu. Hein? On doit la vie à Dieu, on doit le souffle à Dieu. Dieu nous tient en vie, nous garde en vie, tout ça. Et non seulement ça, on a une méchante dette envers Jésus-Christ qui a tout abandonné et qui est venu ici sur la croix mourir pour payer la dette colossale que tu avais, que j'avais envers Dieu. Alors, on a une dette. Mais voilà que Jésus, qui était roi, s'est fait serviteur afin de payer ta dette. Donc, lorsque tu refuses de pardonner, tu agis comme le roi et non le serviteur. Tu n'as pas compris l'Évangile où tu as une grande dette colossale qui t'a été payée, qui a été payée pour toi. Et c'est ça la beauté de Jésus. Vois-tu, quand tu as de la difficulté, c'est ça le message que Jésus est en train de dire, c'est que lorsque tu as de la difficulté, et c'est tout à fait humain, de pardonner celui qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, là, sais-tu quoi? Regarde Jésus aller à la croix, mourir à la croix, abandonner toute la gloire au ciel pour venir ici comme un simple serviteur, mourir sur la croix afin de payer ta dette. Rappelle-toi de ça. Tu as de la misère à pardonner? Rappelle-toi de ça. Et là, à mesure que la beauté de l'Évangile va se répandre dans ton cœur, tu vas pouvoir pardonner généreusement. Amen. Seigneur notre Dieu, nous comprenons que peut-être certaines familles ici, certaines personnes vivent justement ces jours-ci dans des litiges, dans des conflits, et ils ont besoin de ta grâce, ils ont besoin de ta bonté. On ne les juge pas, Seigneur. Il n'y a pas de jugement parce que nous passons tous par là. Mais Seigneur, nous voulons te prier que tu puisses mettre un baume sur leur cœur. Je connais une personne dont on m'a parlé récemment qui a presque tout perdu son argent à cause d'un arnaqueur. Et parfois, Seigneur, c'est difficile de ressortir de tout ça, se sentir libre, se sentir bien, parce qu'on peut avoir légitimement plein de colère dans notre cœur, parce qu'il y a des gens qui nous ont fait du mal. On te prie pour ces gens, Seigneur. On te prie pour des gens qui sont à l'Assemblée, ou peut-être même des gens qui nous écoutent sur l'Internet, qui en ce moment sont là-dedans, sont pris dans tout ça. Plein de litiges, des problèmes, et le cœur est lourd. Veuille les bénir et leur faire du bien. Et aide-leur, Seigneur. Remplis leur cœur de ta paix, de la gloire, de la croix, de l'Évangile, afin qu'ils puissent, Seigneur, eux aussi, et nous aussi, ensemble, pardonner généreusement. Parce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.